Chef.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de la biodiversité des océans aujourd'hui avec Gilles Boeuf, professeur à l'université Pierre et Marie Curie et président du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Une biodiversité qui subit de nombreuses menaces. Nous en avons évoqué quelques-unes dans la première partie de l'émission. Mais il y en a une qui s'annonce majeure, c'est le dérèglement du climat de notre planète. Il se réchauffe, vous le savez. Alors Gilles Boeuf, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle que jouent les océans dans la régulation globale du climat ?
Alors, le rôle est fondamental. On rappelle souvent que la vie est apparue dans l'océan. Et on sait maintenant que la vie est intimement liée au climat. Et souvent, les gens imaginent bien qu'on travaille sur les influences du dérèglement climatique sur la vie. Trop chaud, bon, on va regarder ce qui se passe. Mais on oublie l'inverse. Il y a aussi une relation très importante entre la diversité biologique et le climat. Quand vous avez coupé tous les arbres d'une forêt à Madagascar, ou en Indonésie, ou en Amazonie, ou en Afrique, vous déréglez aussi le climat. Donc c'est un cercle vicieux où ça marche dans les deux sens. Le climat affecte la vie, et la vie affecte le climat. Alors dans l'océan, c'était pas mal étudié. La première question majeure sur l'océan, pourquoi il joue un rôle fondamental sur le climat ? Parce qu'il a... Il est un énorme volume avec une très grande inertie. L'eau est un très bon transmetteur de chaleur par rapport à l'air. Hein. Donc cette eau est capable dans sa masse de stocker d'énormes quantités d'énergie sous forme de chaleur et de les restituer ensuite différemment. Donc l'océan joue un rôle fondamental dans à la fois les précipitations, les tempêtes, on les voit les genèses de cyclones avec les différentes températures entre la surface de l'océan et l'air. Donc cette masse d'eau, cette inertie thermique sont absolument fondamentales dans la gestion du climat sur la planète. Alors maintenant, ceci étant dit, le climat a toujours changé. En gros, l'humain a commencé à se développer il y a 21, 22 000 ans. Hein, et puis ce sapiens commence à s'installer dans des milieux qui se réchauffent. On a gagné 4 degrés en température globale entre 21 000 ans et aujourd'hui. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que depuis 100 ans, on a gagné 1 degré supplémentaire. Donc encore une fois, c'est l'accélération des processus qui nous ennuie aujourd'hui. L'eau de la mer se réchauffe trop vite, et la température de l'air également, et donc entraîne ce dérèglement climatique. Et surtout, on a un parallélisme entre la courbe de la démographie humaine et des émissions de CO2. Ça se suit complètement. Alors, on mesure au niveau de CO2 dans l'atmosphère, depuis l'ère pré-industrielle jusqu'à aujourd'hui, et on se rend compte qu'il nous en manque en gros 30 à 40%. Par rapport à ce qu'on a émis. Alors on sait que l'effet CO2 dans l'atmosphère, ce fameux gaz à effet de serre, hein, contribue à réchauffer l'air qui entoure la planète. Problème aussi de la couche d'ozone, qu'on a, on a quand même réussi l'humain à faire un trou dedans quand même. Hein. C'est quand même pas mal comme performance de l'homo sapiens. Hein. Donc ça veut dire que cette température augmentée par l'effet qui est là joue un rôle important. Deuxième effet, c'est l'effet d'albédo, qui est la capacité de surface qui reçoivent de la chaleur à la rejeter, à la réfléchir. Et c'est vrai que la fonte des glaces joue un rôle important là-dessus, sur le changement de la température. Et enfin, ce CO2 qui nous manque quand on fait notre bilan, il est où ? Il est dissous dans l'océan. Et c'est un cruel dilemme, en fait. Je dis souvent, c'est le Caribe en Scylla, puisque si on conserve le CO2 dans l'atmosphère, c'est bien pour l'océan, mais ça augmente l'effet de gaz à effet de serre et ça réchauffe. Si l'océan dissout CO2, c'est bien pour l'atmosphère et pour l'effet gaz à effet de serre et la température, mais on acidifie l'océan. Parce que la réaction de base, c'est de l'eau plus du CO2 dans de l'acide carbonique.
Voilà, du coup, l'océan peut devenir corrosif, même pour certaines espèces.
Exactement, ce qui veut dire qu'il sera jamais acide, l'océan, puisque depuis 30 millions d'années, il n'a pas changé. Je dis souvent que je compare souvent l'océan à un corps humain. La température à 37 de l'humain, le pH, l'acidité, 7,44 chez l'humain. L'océan était à 8,18 depuis des dizaines de millions d'années. Et là, en moins de 100 ans, on est à 8,08. Et on prévoit pour la fin du siècle 7,93. Ce qui veut dire qu'il sera pas acide, mais beaucoup plus acide. Et là, corrosif, oui, pour des espèces qui n'ont jamais été habituées à un changement du niveau d'acidité de l'océan.
Et la mauvaise nouvelle, c'est que moins les écosystèmes des océans sont en bonne santé, plus ils perdent leur capacité d'absorption du CO2. Donc c'est une espèce de cercle vicieux.
Totalement. Et ils modifient considérablement les chaînes de phytoplancton qui jouent un rôle considérable dans la capacité de l'océan à absorber ce CO2 et à jouer ce rôle qu'on évoquait à l'instant.
Alors, autre modification en cours, la hausse du niveau de la mer, c'est un phénomène bien documenté aujourd'hui, comme nous l'explique Laurent Testu, chercheur à l'université de La Rochelle.
Alors au XXe siècle, on a de très bonnes observations qui sont liées à des observations marégraphiques, en fait, des instruments qui mesurent le niveau de la mer depuis plusieurs siècles maintenant pour certaines stations. Et de manière globale, on sait que le niveau de la mer a monté d'à peu près une vingtaine de centimètres au cours du XXe siècle, ce qui fait une vitesse d'élévation de l'ordre de 1,9 à 2 mm par an. Depuis les années 90, on a lancé des missions spatiales, donc des satellites, qui observent le niveau de la mer de manière très précise et de manière globale. Sur les dernières décennies, la vitesse d'élévation du niveau de la mer est à peu près de 3,2 mm par an. Donc on a une tendance, sur la période actuelle, à un accroissement de la vitesse d'élévation du niveau de la mer.
Alors quelles sont les causes ?
Alors il y a deux principales causes. La première, c'est liée à l'augmentation de la température de la surface de l'océan. Donc on sait que les premières centaines de mètres de l'océan se réchauffent et par simple effet de dilatation thermique, la surface de l'océan s'élève. La deuxième contribution très importante, en fait, c'est la fonte des glaces continentales dans les glaciers de type alpin, Himalaya. Il y a aussi deux grosses calottes polaires, le Groenland et l'Antarctique. Et sur la période récente, on observe en fait une fonte très rapide donc des glaciers de type alpin qui contribue pour une bonne partie en fait à l'élévation observée actuelle du niveau de la mer. Et on commence à observer une fonte aussi de la calotte du Groenland et dans une moindre mesure de la calotte antarctique.
Et ce qui est surprenant, c'est que la mer ne monte pas partout pareil.
Oui, alors ça a été une des grandes découvertes liées en fait aux missions satellites. On a pu avoir des cartographies en fait de l'élévation du niveau de la mer. Donc on peut cartographier maintenant de manière géographique en fait les zones où la mer s'élève et les zones où la mer s'élève moins vite, voire s'abaisse. Alors on a des éléments de réponse, bien sûr, il y a tout un tas de phénomènes et qui sont très liés en fait aux grosses variations de type climatique et interaction entre l'atmosphère et l'océan, des phénomènes de type El Niño qui font des grosses variations locales de variation du niveau de la mer, notamment dans le Pacifique. Et il y a aussi des processus physiques, cette fois-ci, de circulation des océans qui sont modifiés, qui peuvent expliquer en fait cette distribution non uniforme de l'élévation du niveau de la mer. Une des conclusions du dernier rapport du GIEC qui établit différents scénarios d'émissions à effet de serre, et dans tous les cas, à l'horizon 2100, on a une fourchette d'élévation du niveau de la mer qui va à peu près de 40 cm à un peu plus de 60 cm. C'est-à-dire qu'on est déjà à une élévation deux fois plus importante sur le 21e siècle que sur le 20e siècle. Et il est très probable que ces prédictions soient modifiées lors du prochain rapport du GIEC dans 4 ou 5 ans.
Et sans doute pas pour être vu à la baisse, hein, Gilles Beuve.
Non, les rapports des 0,98 m à l'horizon effectivement 2100.
Donc on sait que ça monte, alors ça c'est, on a compris les causes, les conséquences bon, sur la biodiversité elles peuvent être importantes parce qu'il y a plus d'érosion côtière, donc plus de pollution.
Bon, déjà c'est très simple, quand on prend la remontée du niveau, on va perdre la surface de continent. Et tout à l'heure on expliquait bien que les espèces marines sont un peu différentes des espèces continentales, ne sont pas les mêmes écosystèmes. Je disais à mes collègues de la Tour du Valat en Camargue, vous étiez un laboratoire lagunaire, vous serez un laboratoire marin demain, ils seront entourés par la mer. Et on est en France, hein, on n'est pas à Kiribati ici. On a fait des cartographies de la modification des littoraux dans tous nos territoires outre-mer, par exemple. Il y a vraiment des îles qui vont être fortement menacées. Ça démarre à l'île de Saint en France, qui va être menacée, jusqu'à nos îles, en fait, de Polynésie, par exemple, aux Antilles aussi. Donc déjà, on perd de la surface continentale pour laisser du marin s'installer. Ensuite, toute une question de capacité du vivant à réagir à la vitesse de relevage du niveau de l'océan. Et le plus bel exemple, c'est le corail. Le corail fait face aujourd'hui à des choses très compliquées. La température augmente. Et le corail, il aime bien l'eau chaude, mais dans une plage thermique très, très, très précise. C'est un peu comme la régulation du corps humain. Il aime pas dépasser 30, il aime pas aller en dessous de 26. La remontée du niveau de l'eau va faire qu'il y aura plus de lames d'eau au-dessus de la tête du corail qui grandit et la surface de l'eau. Il faut une très grande transparence pour que ces micro-algues, associées effectivement au corail, soient capable de faire la fameuse photosynthèse, et sans algues associées au corail, beaucoup de corail disparaissent, le fameux blanchiment du corail.
Par exemple. Et en ce moment, on assiste à un blanchiment massif.
Partout, absolument partout. Ensuite, il y a la question de l'acidité. Et là, c'est vrai que on montre que l'acidité qui diminue augmente la non-résistance du corail à la température qui augmente, et surtout aussi va faire que le corail aura beaucoup de mal à faire son squelette. Il lui faudra beaucoup plus d'énergie pour construire son squelette. Même chose pour les coquilles de coquillage, par exemple. Donc, tout ce faisceau de système, et on y rajoute l'humain qui continue à pêcher la dynamite sur l'écosystème corallien au cyanure, et là, on arrive à une situation intenable, en fait, pour ce pauvre corail. N'oublions pas quand même que c'est quand même l'animal le plus grand. On a des récifs coralliens, et les plus vieux.
Et c'est la nurserie des poissons.
Complètement. On a des récifs coralliens qui ont 5000 ans, depuis la base du récif et qui se voient aussi, comme on disait, comme la grande muraille de Chine de la Lune.
La hausse des températures de l'eau, c'est une autre conséquence des changements climatiques. On fait le point sur ces conséquences juste après ça. n'écoutez pas du vent sur RFI. Nous parlons des conséquences des changements climatiques sur les océans avec Gilles Boeuf, président du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Alors Gilles Boeuf, depuis quand observe-t-on une hausse de la température moyenne des océans et dans quelle proportion ?
Ça leur disait que la Terre s'est réchauffée à peu près à partir de la dernière glaciation, on est à 21-22 000 ans. Donc l'océan suit le même mouvement, bien sûr, que la température de l'air. Les interactions en permanence entre l'air et l'océan. Mais ça, ce sont des évolutions non humaines, puisque les activités de l'humain il y a 22 000 ans n'étaient quand même pas très nombreuses. Je rappelle une chose qui est intéressante à dire, c'est qu'il y a 12 000 ans, quand l'humain s'arrête de bouger et qu'il invente agriculture et élevage, l'humain et ces animaux domestiques de l'époque, il n'y en a pas beaucoup, représentent en partie de la masse de tous les mammifères 0,1%. Et un travail récent nous dit, en fait, l'humain aujourd'hui et ces mammifères domestiques, donc nos vaches, nos cochons, nos chevaux, nos chiens, nos chats, etc., nos moutons, font 90% de la masse de tous les mammifères actuels, 5000 espèces connues aujourd'hui.
Et voilà les espèces invasives.
Bah, on est bien d'accord. Et il faut toujours rappeler que quand on parle de l'humain, il y a toujours l'humain avec ses bestioles domestiques, hein, qui sont absolument indissociables. Ils sont vraiment impossibles.
Je sais pas, je sens que vous ne les aimez pas.
Non, je dis pas ça. Je dis souvent qu'il faut manger beaucoup moins de viande, ça c'est clair, mais non, attention, il faut quand même dire une chose qui est claire, et je suis clair dans ma tête. Sans agriculture, il n'y a pas d'humanité. Il y aurait des humains, les humains ont vécu avant l'agriculture, mais il n'y aurait pas 7 milliards d'humains sans agriculture, donc il y a un rôle fondamental.
Oui, mais 1,5 milliard de vaches, c'est peut-être un peu beaucoup.
C'est beaucoup, c'est trop. Ça c'est clair, mais ça, on a beaucoup travaillé là-dessus, on démontre, on n'est pas très océanique là, mais on montre effectivement. Et la vache marine a disparu. C'est une des espèces marines officiellement déclarée disparue, qu'on sait qu'elle a été massacrée par des explorateurs dans la mer de Bering il y a 150 ans. Donc pour revenir effectivement à cette question-là, la température dans l'océan a augmenté. Mais en ce moment, elle augmente beaucoup trop vite. On montre par exemple que la Méditerranée, elle a pris quasi à 1 degré pour la partie donc la plus ouverte, sud de l'Espagne, sud de la France, sur 30 ans. Et aujourd'hui, la température globale de l'océan augmente beaucoup plus vite qu'auparavant.
Et même dans les eaux profondes.
Ah oui, et c'est là que c'est très grave, parce qu'on pourrait me dire, qu'est-ce que veut dire 0,1 degré ? Le problème, c'est que dans les grandes profondeurs, à part la Méditerranée, qui est complètement différente des autres mers, qui est chaude au fond, c'est fabuleux, la Méditerranée, elle est à 11-12 degrés à 3000 mètres de profondeur. On a ça nulle part ailleurs au monde. Donc, partout au monde, on a 2,5 degrés sur les grands fonds océaniques, au-delà de 3000 mètres, 2,5 degrés. 0,1 degré de plus, ça sera considérable parce que, justement, ça ne variait pas depuis très longtemps. Le fond d'océan est très stable depuis très longtemps. Donc une toute petite différence sera beaucoup plus impactante sur le vivant qu'une différence plus grande à la surface de l'océan. Une huître, prenez une huître. Bon, on aime bien les huîtres, nous les Français. J'étais à Marais-Oléron, j'aime bien aller à l'île de Ré. Et bien à l'île de Ré, vous mettez un thermomètre dans la vase en plein soleil l'été quand l'eau de mer est partie à marée basse, vous pouvez monter à 50 degrés dans la vase. L'huître supporte ça. Alors que lorsque la mer revient, elle va être à 17 ou 18 degrés. Donc c'est pas là qu'est le problème. Le problème, il est justement pour ces milieux profonds ou des mers très fermées, où une toute petite différence vendrait de graves conséquences. Et ça, on s'en est rendu compte quand on a travaillé sur des poissons antarctiques. On s'est rendu compte que ces poissons qui devaient consommer très peu d'oxygène, puisque l'eau est froide, consommaient une frénésie d'oxygène. Et ça, ça veut dire que dans le changement global que l'on vit aujourd'hui, les milieux profonds vont être aussi beaucoup affectés.
Et cette hausse des températures entraîne des déplacements de population. C'est ce qu'a constaté Pierre-Robert de la Tour, qui plonge depuis de nombreuses années avec les orques au nord de la Norvège. Il vient de terminer une nouvelle expédition avec son association Orques sans frontières et nous l'avons joint à son retour.
C'est vrai que le fait d'aller plonger en continu sur des périodes assez longues avec ces animaux et donc de pouvoir les observer au plus près nous met en situation d'observateur un peu privilégié de cet écosystème. Et là, on a affaire à un écosystème qui est très particulier, une chaîne alimentaire très courte. Et c'est peut-être la plus courte qui existe dans le monde. Quand on la décortique, elle ne comporte que 4 maillons, phytoplancton, zooplancton, hareng, donc, qui se nourrit de zooplancton, et le prédateur apex, l'orque, qui mange le hareng. Donc, 4 maillons dans cette chaîne alimentaire. Et il faut comprendre que chaque événement, chaque modification qui impacte un maillon a des effets immédiat et visible sur la vie des orques. Et c'est comme ça que dans les années 2005-2008, en observant la raréfaction puis la disparition des orques dans les îles Lofoten en hiver, qu'on a mis en évidence la modification du circuit migratoire des harengs. En effet, ceux-ci avaient l'habitude de venir venir hiverner dans les eaux froides du Tysfjord, et il n'y venait plus. L'hypothèse la plus probable, parce qu'on en est encore qu'au stade des hypothèses, pour moi, c'est le réchauffement climatique. Parallèlement à ça, on a aussi observé en tant que plongeur, et tous les plongeurs ont des ordinateurs, ont des montres qui mesurent la température, une élévation graduelle de la température à cet endroit, à cette époque de l'année. Et bon, quand on corrèle les deux, on ne peut pas ne pas imaginer que c'est sans effet sur la vie des harengs. Ceux-ci ont besoin d'une eau très froide pour hiverner. C'est une étape essentielle de leur métabolisme. Pendant l'été, les harengs vont accumuler près de 20% de leur poids en graisse. Au cours de l'hivernage, ils vont transformer ces 20% de graisse, donc de réserve énergétique, en gonade, c'est-à-dire en œufs et en laitance, qui va constituer 20% donc de leur poids de corps à la fin de l'hivernage. C'est grâce aux basses températures qu'ils vont pouvoir opérer cette étape cruciale dans leur métabolisme. Et pendant 3 ans, il y a eu des perturbations, le circuit migratoire a beaucoup changé, les zones de pêche n'étaient jamais au même endroit, donc les harengs n'hivernaient jamais au même endroit, mais c'était quand même en haute mer. Et figurez-vous que cette année, on a observé que les harengs ont hiverné dans un fjord, 150 km au nord des îles Lofoten, comme s'ils cherchaient ou s'ils avaient trouvé un nouvel endroit qui correspond maintenant à ce besoin et qui présente les caractéristiques que présentait le Tysfjord il y a 10 ans de cela.
Et voilà comment les orques changent leur trajectoire pour suivre leur nourriture qui a changé de milieu, c'est-à-dire les harengs, et ce ne sont pas les seuls à modifier leur trajectoire.
Ah non, on a des beaux exemples entre les oiseaux et les insectes au niveau terrestre, la mésange et les chenilles de papillon. Alors le drame, c'est que...
Ils se déplacent de combien de temps?
Récemment, ils montraient en fait que c'était de l'ordre... Ça dépend un petit peu du niveau d'espèce et sa mobilité. Ça peut être de dizaines de kilomètres sur 10 ans, par exemple. Hein.
Alors, vers le nord, quand ils
dans
sont...
L'hémisphère nord,
dans l'hémisphère nord.
Voilà.
Et pourquoi ?
Parce qu'on va vers le moins chaud, c'est tout, hein, puisqu'il fait trop chaud. Et le travail de science participative très joli mené en Europe de l'Ouest, publié il y a 2 ans, fait à partir de 10 000 personnes 1,5 million d'heures d'observation. Voilà, qu'un scientifique n'aurait pas pu faire. Hein. Ils sont partout et tout le temps, eux. Nous a montré que nos papillons avaient fait 114 km vers le nord en 18 ans, et nos oiseaux 33. Le problème, c'est que si l'oiseau va plus vite que la chenille, ben, les petits oisillons, ils ont rien à manger. Ou à l'inverse, on peut très bien imaginer des cas où c'est l'inverse qui se produit. Hein. La proie, elle a migré, et le prédateur pas encore suffisamment. Donc cette espèce de d'indispensabilité pour les deux d'être là au même moment pour nourrir les bébés du prédateur fait que ceci, bien sûr, on rompt l'harmonie. Je dis souvent que l'humain est un rompeur d'harmonie dans ses considérations particulières. Et en mer, on a beaucoup de cas comme ça, bien sûr.
Alors la biodiversité peut s'adapter, on l'entend quand même, hein, même si en effet, on voit bien que les écosystèmes sont modifiés. Mais parlez-nous de ce super champion qui est le tardigrade. Ça, c'est un super champion qui est capable de s'adapter partout. Oui. Il est immortel.
Ah non, j'irai pas jusque là. C'est Huberry, d'ailleurs, qui m'avait dit, est-ce qu'il y a des espèces immortelles? Il y a des colonies d'espèces qu'on peut quasi considérer comme immortelles, hein, des micro-algues, des coraux, mais c'est pas l'individu en lui-même. La colonie, elle, peut, tant que vous fournissez effectivement à des micro-algues du gaz carbonique et de la lumière, ben, elle continue effectivement à se développer et du nutriment pour s'alimenter, mais pas l'individu en lui-même. Alors, le tardigrade, c'est un groupe qui a longtemps été assez mystérieux pour le classer dans les classifications des animaux. Et ça ressemble à un petit nounours à 8 pattes, c'est absolument, mais ça fait 1 ou 2 millimètres, c'est tout petit. Beaucoup dans l'eau, dans les mousses, dans des sols très humides, en mer, sur le continent, dans les lacs et dans les rivières aussi. Et ce groupe est fascinant parce que, comme les œufs de papillon d'ailleurs, hein, ou comme les petits nématodes des sols, des petits vers, hein, ils sont capables de supporter quasi le zéro absolu de l'univers. Hein. Einstein avait travaillé là-dessus, la température la plus basse de l'univers, c'est ce qu'on appelle le 0 degré Kelvin, c'est moins 273 degrés Celsius. Eh bien, on les met dans de l'hélium liquide, doit être 6 ou 7 degrés, eh bien, ils tiennent.
Et comment ils font pour s'adapter?
Ah, c'est fabuleux. Bah, justement, c'est une vraie question qu'on n'a pas encore résolue. En tout cas, ils sont capables de s'adapter à ces conditions, de s'acclimater à un changement pas trop brutal, mais assez rapide quand même. Et ils survivent des mois dans ces conditions-là. Et quand on les décongèle, ils gardent leur capacité, puisqu'ils continuent à faire des bébés, par exemple, à se développer. Un petit tardigrade, lorsqu'il est dans un milieu où il va manquer d'eau, va perdre sa tête, ses pattes, c'est fabuleux, hein. Il ressemble à une espèce de petite graine qui va rester 5 siècles ou plus dans un milieu. Et le jour où les conditions de sécheresse disparaissent et que de l'eau revient, il refait une tête, il refait des pattes et il fait des bébés avec sa copine, comme je dis souvent en rigolant. C'est fabuleux. Et vers le haut, ils vont vers des hautes températures aussi. Des gens avaient dit, ils sont extraterrestres. On n'ira pas jusque là. N'empêche qu'on a des formes de vie incroyablement capables de s'adapter. La question par rapport au climat qui change, toujours la même. Le vivant sait s'acclimater et s'adapter. Quand ça change pas, trop vite. Et c'est là que l'humain intervient, comme l'éléphant dans le jeu de quilles, hein, ce livre de Robert Barbeau, et l'empêchant de tourner en rond, qui va faire que les changements sont trop rapides et s'accélèrent.
Et l'humain qui, lui, a un corps à 37 degrés, thermorégulé, avec, c'est-à-dire on maintient notre température, mais nous, on a une amplitude qui est quand même assez limitée. Hein.
Très. Puisqu'on sait que les protéines de l'humain, le cerveau supporte pas plus de 42, 43 degrés, on fait des convulsions, puis ça se termine très très vite. Les protéines de transfert dans les membranes ne jouent plus leur rôle, par exemple. Et vers le froid aussi, on a eu des cas d'hypothermie, hein. Je me rappelle ce pompier qu'on a oublié 48 heures dans l'eau de mer au large de Sète une fois, était rendu à un niveau assez bas. Donc l'humain à trop basse température ou trop haute. D'ailleurs l'humain se défend paradoxalement beaucoup mieux contre le froid que contre le chaud. Hein. Il suffisait de voir ces marathons olympiques où on mesurait la température lorsque les gens couraient. Et à haute température, courir un marathon, ça crée pas mal de problèmes finalement. On court plus. La température idéale pour l'humain pour courir, c'est entre 11 et puis 20 degrés. Donc la température est très importante aussi pour les espèces qui ont une température constante.
Mais donc on comprend bien que la difficulté finalement, ce n'est pas que la biodiversité s'adapte, c'est que l'humain s'adapte.
Bien entendu, il faut les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Enfin, la biodiversité pourrait très bien se passer de l'humain, hein, ça c'est sûr. D'ailleurs, elle nous survivra. Hein, ces bactéries qu'on évoquait...
Le tardigrade,
voilà, ils seront là
il
bien
va
après
nous damer
nous,
le pion.
Je ne suis pas du tout inquiet pour eux dans ces considérations-là. Si on pollue les sols dans lesquels ils sont détruits, on pollue l'eau dans laquelle ils se trouvent, oui, on va les détruire, effectivement, bien sûr. Hein.
Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui,
bien sûr,
massivement.
Sans se préoccuper des questions d'impact de nos activités sur l'environnement, sans les gérer. Et l'humain a besoin de cette diversité. Je le répète en permanence depuis toujours. Un corps humain, c'est plus de bactéries dans lui et sur lui que de cellules humaines. Donc on arrête de me raconter que l'humain est vraiment à part.
Et on a besoin de cette biodiversité pour nous adapter, notamment aux conséquences des changements climatiques.
Je dis souvent, il y a 300 maladies nouvelles chez l'humain depuis 1940 qui sont liées à des modifications de nos bactéries intestinales ou sur la peau. Des maladies comme le diabète, comme aujourd'hui l'obésité, sont en partie liées à des variations de bactéries au niveau du tube digestif. Donc, beaucoup plus d'humilité, comme je dis souvent. Hein. Apprenons à vivre avec cette diversité biologique et ne créons pas des conditions de changement trop rapides qui vont leur interdire une capacité, justement, à suivre les évolutions que l'on crée.
Oui, parce que, comme on l'a dit, le problème, ce n'est pas le changement, c'est la vitesse
Absolument.
Du changement et l'accélération.
Tout à fait.
Et il y a eu, donc, le cinquième rapport du GIEC qui est sorti récemment avec, donc, qui recensait l'état des lieux scientifiques, mais les études se poursuivent. Et il y en a de plus en plus qui paraissent, et notamment certaines qui évoquent le risque de franchir des seuils.
Oui.
Des seuils irréversibles, oui. Au-delà duquel on ne pourra plus revenir en arrière.
Alors, pour montrer qu'on est très, très à la mode à ces pas du vent, à la qui sort dans la revue Science, nous dit en fait qu'ils ont repris un travail publié en 2009, par une équipe multidisciplinaire avec beaucoup de monde, sur la notion de seuil et de limite sur la planète. Boundaries, en anglais, c'est ce qu'ils disent en fait. On regarde tous les coins du monde, on a pris des écosystèmes qu'on a finement étudiés, et ça va du trou dans la couche d'ozone, en passant par l'agriculture, en passant par le dérèglement climatique, en passant par les pertes de diversité biologique, par la question de l'eau potable aussi, bien sûr. Hein. Ils démontrent effectivement qu'il faut bien considérer les deux, et ils montrent que les pertes de diversité biologique sont aujourd'hui extrêmement prégnantes et ont déjà franchi la limite rouge qu'on n'aurait jamais dû franchir, sur la dégradation des écosystèmes, leurs pertes, hein, et des espèces associées. Et moi, je réagis un petit peu dessus en disant que on a beaucoup parlé des taux d'extinction. Je pense que c'est un bon critère sur des temps très longs, hein, sur des millions d'années. Oui, des espèces ont disparu, et l'homme crée des conditions aujourd'hui qui pourraient aller vers ceci. Mais aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est non pas l'extinction d'une espèce, mais la diminution dramatique du nombre d'individus de l'espèce. Hein, quand on parle de la surpêche du grand thon rouge, le thon rouge n'a jamais été menacé d'extinction par l'activité humaine. Et simplement, ces stocks qui s'amenuisent pourraient amener à ceci si on ne fait pas grand-chose. Et c'est vrai pour tout le reste. Mais vous comprendrez que je reste beaucoup plus un défenseur d'écosystèmes et de milieux que d'espèces particulières.
Et est-ce que vous seriez prêt à passer 73 jours sous la mer, comme viennent de le faire deux chercheurs, Bruce Cantrell et Jessica Frenn, au large de l'archipel des Keys, en Floride, pour attirer l'attention justement sur la protection des océans?
Ils étaient dans une boîte?
Non, dans une espèce d'hôtel sous-marin.
Hôtel sous-marin. Tout dépend du confort qu'on va m'offrir. Si je suis fasciné par ce qui se passe à l'extérieur en ayant une jolie vitre pour les regarder, pourquoi pas?
Bon, bah écoutez, on y réfléchira. Merci beaucoup Gilles Boeuf d'être passé dans C'est pas du vent. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Pour réagir ou témoigner sur ce qui se passe près de chez vous, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter #C'est pas du vent. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres.